J'ai déjà eu l'occasion de mentionner Nostradamus, ce médecin astrologue qui s'est rendu célèbre au XVIe siècle pour ses arts divinatoires et surtout pour ses publications « Centurie astrologique » et « Les prophéties » et qui sont des prédictions en quatrains dont la recherche du sens caché passionne encore aujourd'hui un certain nombre de nos contemporains. Je pense à lui à cause de la complexité de la prophétie du chapitre 9 de Daniel. Par contre, dans les textes sacrés, il ne se trouve aucun mystère particulier qui demanderait l'utilisation d'une baguette magique ou autre instrument. Une étude approfondie et méticuleuse du passage révèle assez facilement ses secrets parce que son auteur n'a pas cherché à cacher quoi que ce soit. Au contraire, le but de cette prophétie donnée à Daniel par l'ange Gabriel est de nous faire connaître ce que Dieu a l'intention de faire dans l'avenir. La première partie de cette prophétie est du passé par rapport à nous, mais la seconde est encore à venir. Je la rappelle en la résumant. Une période de 70 septaines a été fixée pour ton peuple et pour la ville sainte, pour expier la faute et pour instaurer une justice éternelle, pour accomplir vision et prophétie et pour conférer l'onction au sein des saints. Depuis le moment où le décret ordonnant de restaurer et de rebâtir Jérusalem a été promulgué, jusqu'à l'avènement d'un chef ayant reçu l'onction, il s'écoulera 7 septaines et 62 septaines. Après les 62 septaines, un homme ayant reçu l'onction sera retranché et il n'aura rien pour lui. Le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation, et jusqu'à la fin séviront la guerre et les dévastations qui ont été décrétées. Versets 24 à 26. C'est à juste titre que ce passage s'appelle la prophétie des 70 septaines. Elle se compose de trois périodes inégales, 7 septaines, suivies de 62 septaines, suivies d'une septaine. Tout commence par le décret ordonnant de restaurer et de rebâtir Jérusalem qui a été promulgué par l'empereur perse Artaxerxès le 14 mars 445 avant Jésus-Christ. 7 septaines plus 62 septaines, donc 69 septaines d'années de 360 jours plus tard, nous amène au 6 avril 32 de notre ère, ce qui correspond à l'entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem, aussi appelé jour des rameaux. Qu'est-ce qui prouve l'exactitude de cette date? Je vais donner deux preuves chronologiques différentes. C'est un peu fastidieux, alors il faut se cramponner aux ridelles. Premièrement, Luc déclare que le ministère de Jean-Baptiste a commencé la 15e année du règne de l'empereur Tibère. Or, sa première année est l'an 14 de notre ère, ce qui fait que la 15e année de son règne est l'an 28. D'après un certain nombre d'indices qui entourent Jean-Baptiste, il semble avoir débuté son ministère au printemps de l'an 28. Or, comme il commençait déjà à être connu quand Jésus est venu le voir pour se faire baptiser par lui, il est probable que le Seigneur a commencé à proclamer le royaume de Dieu l'automne de l'an 28. Épiphanius, qui était évêque de Chypre au 4e siècle, a écrit que Jésus fut baptisé en novembre 28, mais il ne donne pas ses sources. Comme le ministère de Jésus a duré un peu plus de 3 ans, sa crucifixion a dû avoir lieu au printemps de l'an 32. C'est aussi ce que dit Épiphanius que j'ai cité. Deuxièmement, pendant la première Pâque de son ministère, en l'an 29, Jésus a nettoyé le temple de Jérusalem qu'avait construit Hérode en chassant les marchands et les changeurs d'argent. À cette occasion, il a eu une altercation avec les Juifs et il a dit « Démolissez ce temple, leur répondit Jésus, et en 3 jours je le relèverai. » « Comment ? » répondirent-ils. « Il a fallu 46 ans pour reconstruire le temple et toi tu serais capable de le relever en 3 jours ?» Or, le temple d'Hérode ne fut terminé qu'un quart de siècle plus tard, en l'an 64 de notre ère. Tout ça pour dire que le temple était bel et bien dans sa 46e année de construction quand les Juifs ont déclaré avec étonnement « Comment ? Il a fallu 46 ans pour reconstruire le temple ?» Hérode a commencé ce projet grandiose en l'an 18 avant notre ère. Si on y ajoute 46 années, on arrive à l'an 29 et non pas 28 parce qu'une seule année sépare l'an 1 avant Jésus-Christ et l'an 1 après. Comptez sur vos doigts et vous verrez que j'ai raison. Jésus a donc célébré sa première Pâque au printemps de l'an 29. Or, son ministère a inclus 4 Pâques et la dernière fut celle du printemps de l'an 32. C'est à ce moment-là qu'il a fait son entrée triomphale dans Jérusalem avant d'être crucifié le vendredi avant Pâques. Ces deux chronologies montrent que la date du 6 avril 32 convient parfaitement pour le jour des rameaux. Revenons à la prophétie de Daniel qui continue et dit « Après les 62 septaines qui ont suivi les 7 premières, c'est-à-dire après les 69 septaines, un homme ayant reçu l'onction sera retranché et il n'aura rien pour lui. » La première remarque à faire est que cette mise à mort n'a pas lieu pendant la 70e septaine, mais après les 69 septaines. Il y a donc une coupure entre la 69e septaine et la 70e. C'est important à noter, surtout que Jésus avait anticipé cet intervalle quand il a dit à l'apôtre Pierre « Je bâtirai mon église ». Cette tangente et parenthèse dans le plan de Dieu était totalement inconnue des prophètes de l'Ancien Testament. La constitution de l'Église rendait une pause nécessaire dans le programme de Dieu avec Israël, ce que Jésus avait prophétisé quand il a dit aux Juifs « N'avez-vous pas lu dans les Écritures ? La pierre rejetée par les constructeurs est devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice. C'est le Seigneur qui l'a voulu ainsi et c'est un prodige à nos yeux. Voilà pourquoi je vous déclare que le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Ce nouveau peuple, c'est les croyants du Nouveau Testament et nous vivons actuellement le temps de l'Église ou de la grâce qui correspond à l'intervalle entre la 69e et la 70e septaine. Qu'il y ait cette coupure est évidente pour plusieurs raisons. Premièrement, si elle n'existait pas, tout ce qui devait arriver à Israël après les 483 années qui ont suivi le décret d'Artaxerxès, comme l'abominable profanation, ainsi que la destruction de Jérusalem et du Temple, des événements annoncés par Jésus, auraient dû se passer entre l'an 32 et l'an 39. Or, rien de tout cela n'est arrivé. De plus, ces intervalles sont courants dans les prophéties de l'Ancien Testament. Par exemple, Ésaïe écrit d'une seule traite « Car pour nous un enfant est né, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il étendra sans fin la souveraineté et donnera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice » dès à présent et pour l'éternité. Il est évident que la première affirmation, « Un enfant est né, un fils nous est donné », concerne la première venue de Jésus et les autres se réaliseront lorsque Jésus aura établi son royaume terrestre. Pareillement, le prophète Zacharie écrit, « Ton roi vient vers toi, monté sur un âne, non, le petit d'une ânesse. » Il s'agit de l'entrée triomphale. Sa domination s'étendra d'une mer jusqu'à l'autre et depuis le grand fleuve jusqu'aux confins du monde. C'est une référence au millénium. Dans la prophétie de Daniel, l'homme ayant reçu l'onction est Jésus-Christ. En effet, Ésaïe dit « L'Esprit de l'Éternel, du Seigneur, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. » Cet homme sera retranché. Le mot pour retranché veut dire exécuté. C'est une référence à la crucifixion du Christ. Sa mort violente avait été prophétisée à maintes reprises. Par exemple, Ésaïe écrit « Il a été arraché à la vie par la contrainte suite à un jugement. Et qui, parmi les gens de sa génération, s'est soucié de son sort lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants ?» cet homme sera retranché et il n'aura rien pour lui. Une fois le Messie crucifié, son œuvre semblait terminée, anéantie, car personne n'a pris sa place. Au contraire, la majorité de ses disciples disparurent dans la nature. Jésus ayant été rejeté par les siens, le royaume qu'il est venu offrir à la nation d'Israël n'est plus qu'un lointain souvenir et son couronnement sur le trône de David, un rêve évanoui. Du moins, c'est ainsi que ses contemporains, ses ennemis et même certains de ses disciples ont considéré sa mort. Pourtant, tout s'était déroulé comme prévu et selon ce qui avait été écrit sur sa venue. La prophétie de Daniel continue avec « Le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire ». Le prince qui viendra est le dernier fureur de la troisième phase de l'Empire romain reconstitué. Daniel l'appelle la petite corne. Il s'agit bien sûr de l'Antéchrist qui viendra à la fin des temps. La conséquence de l'assassinat du Christ par les Juifs sera âpre et sanglante. Une fois la théocratie privée de celui qui avait reçu l'onction et qui en était l'âme, celle-ci ne peut plus que s'écrouler. Quand Jésus a pleuré sur la ville sainte, il a dit « Ah, Jérusalem, Jérusalem, toi qui fais mourir les prophètes et qui tues à coups de pierre ceux que Dieu t'envoie, combien de fois j'ai voulu rassembler tes habitants auprès de moi comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Eh bien maintenant, votre maison va être livrée à l'abandon. Oui, je vous le déclare. Dorénavant, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que le temps soit arrivé où vous direz « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Abattre le Messie, c'était détruire le temple, Jérusalem et la nation d'Israël. Selon la prophétie de Daniel, ce n'est pas le prince qui viendra qui détruira la ville et le sanctuaire, mais son peuple. Il s'agit donc des Romains. Quand les dirigeants de la nation d'Israël ont officiellement rejeté le Christ en attribuant son pouvoir à Béelzébul, le chef des démons, Jésus les a avertis disant que Jérusalem serait détruite par les païens, qu'elle serait abandonnée et que sa destruction serait telle qu'il ne resterait pas une pierre sur une autre. Or, d'après les livres d'histoire, on sait que le général Titus a rasé Jérusalem et le temple en l'an 70 de notre ère, et que des dizaines de milliers de Juifs furent massacrés. Mais aussi loin dans l'horreur que fut cet événement, il ne mettait pas un terme aux souffrances de la nation, car la prophétie continue disant « Et la fin du peuple et du prince arriveront comme par une inondation ». En ce qui concerne le peuple de Titus, c'est la première forme de l'Empire romain représentée par les jambes de fer de la quatrième bête du songe de Nabuchodonosor. La prophétie précise que l'Empire romain et le prince ont été détruits comme par une inondation. Ce mot en hébreu sert souvent à désigner soit des invasions ennemies, soit la colère de Dieu. Or, on sait qu'au 5e siècle de notre ère, des hordes barbares venant du nord attaquaient sans répit les postes avancés de l'Empire romain. Mais, à cause de sa dépravation interne, le pouvoir politique n'était plus en mesure de faire face à ces menaces et d'assumer le ravitaillement de ces fameuses légions. Éventuellement, elles furent taillées en pièces, ce qui mit fin à l'hégémonie de l'Empire romain, mais non pas à son existence, comme je l'ai déjà dit, puisqu'il a continué à survivre en une multitude de nations, dont la France. Concernant le prince qui viendra, qui est aussi appelé la petite corne et qui représente l'Antéchrist, comme cela a déjà été prophétisé par Daniel, il sera jeté par Dieu dans les temps de feu pour l'éternité. La prophétie continue et dit que « jusqu'à la fin séviront la guerre et les dévastations qui ont été décrétées ». Jusqu'à la fin des 70 septaines, Israël connaîtra des persécutions, des guerres et la destruction. On sait combien cela s'est vérifié jusqu'à présent et se vérifie encore aujourd'hui et ce n'est pas fini. Je termine le chapitre 9 de Daniel. Il conclura une alliance ferme avec un grand nombre pendant une septaine et à la moitié de la septaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Dans le temple sera établie l'abominable profanation, et cela durera jusqu'à ce que l'entière destruction, qui a été décrétée, s'abatte sur le dévastateur. Verset 27. Avec ce verset, on se rapproche encore davantage des quatrains de Nostradamus. Mais en l'étudiant de près, on va le comprendre parce que l'ange Gabriel qui parle ne joue pas à cache-cache avec Daniel. Ce passage concerne la 70e septaine de la prophétie. Il conclura une alliance ferme avec un grand nombre. L'antécédent de ce « il » est le prince qui doit venir, c'est-à-dire le dernier fureur, l'antéchrist. Et le grand nombre est la majorité du peuple de Daniel, c'est-à-dire les Juifs, car il est toujours et uniquement question de l'avenir d'Israël. L'événement central qui va marquer la dernière septaine de la fin des temps est la conclusion d'une alliance ferme entre le prince qui viendra et Israël. Ce Führer sera le dernier César de l'Empire romain reconstitué. L'Antéchrist conclura une alliance de paix et d'assistance militaire par laquelle il se portera garant de la sécurité d'Israël dans son pays. On déduit de cette prophétie qu'à cette époque future, les États-Unis ne seront plus les protecteurs d'Israël et que la nation juive n'aura plus les moyens de se battre et de se défendre, ce qui, j'en conviens, semble impensable aujourd'hui. Ceci dit, il faut garder à l'esprit combien les choses peuvent aller très vite dans le monde. En tout cas, suite à des événements qui ne nous sont pas rapportés, Israël se trouvera dans une situation critique et accueillera les bras ouverts l'offre que lui fera le dernier César de l'Empire romain. Par cet acte apparemment bienveillant, l'Antéchrist se déclarera un prince de paix. Mais soudainement, au milieu de la dernière septaine, c'est-à-dire après 3 ans et demi, il retournera sa veste et révélera toute sa fourberie. Il rompra l'alliance qu'il avait établie et, suite à une guerre, décidera de rester au Moyen-Orient. En effet, plus loin, Daniel dit, il dressera les tentes royales entre les mers sur la magnifique montagne sainte. La prophétie précise aussi qu'il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Cette expression décrit tout le système lévitique, ce qui veut dire qu'au début de la dernière septaine, Israël aura remis en fonction le culte de l'Éternel de l'Ancien Testament et donc reconstruit le temple. Une fois que ce dernier Führer aura réussi à devenir la plus grande puissance mondiale politique et militaire, il voudra aussi le pouvoir dans le domaine religieux. Il demandera alors l'adoration qui ne revient de droit qu'à l'Éternel, le seul Dieu véritable. Afin d'être connu comme Dieu, l'Antéchrist s'attaquera à toutes les religions, mais surtout aux Juifs. D'ailleurs, la prophétie continue disant que dans le temple sera établie l'abominable profanation. Quand Jésus-Christ était sur terre, il a parlé de cet événement et averti ses contemporains disant « Quand donc vous verrez l'abominable profanation s'établir dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne. » Dès que les Juifs auront eu vent de ce qu'aura fait l'Antéchrist, ils devront fuir au plus vite et quitter la Palestine parce que, précise Jésus, à ce moment-là, la détresse sera plus terrible que tout ce qu'on a connu depuis le commencement du monde, et jamais plus on ne verra pareille souffrance. Cette abominable profanation est décrite par l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse où il dit que le faux prophète installera une image de l'Antéchrist dans le temple et obligera le monde entier à l'adorer. L'apôtre Jean écrit aussi qu'Israël, symbolisé par une belle femme, devra se réfugier dans le désert pendant 1260 jours ou un temps, deux temps et la moitié d'un temps. Cette période qui correspond à 3 ans et demi s'appelle la Grande Tribulation. Le prophète Jérémie l'a décrit disant « Ainsi parle l'Éternel, nous entendons des bruits de trouble, c'est la peur, ce n'est pas la paix. Pourquoi tous les visages sont-ils devenus livides? Malheur! Car ce jour est grand, Aucun autre n'est comme lui. C'est un temps d'angoisse pour Jacob. » Il faut remarquer que tout au long de cette prophétie, il n'est jamais question de l'Église parce qu'elle ne sera plus présente sur terre ayant été enlevée dans les cieux. La fin de cette prophétie est que cette abominable profanation durera jusqu'à ce que l'entière destruction qui a été décrétée s'abatte sur le dévastateur. Quand Jésus-Christ reviendra, l'Antéchrist et le faux prophète, les deux bêtes de l'Apocalypse, seront jetés dans l'étang de feu. La nation d'Israël a déjà souffert le martyre, mais malheureusement, le pire est encore à venir parce que dans sa souveraineté, l'Éternel va utiliser l'Antéchrist pour briser et extirper l'esprit de révolte de son peuple rebelle et l'amener à la foi en son Messie, Jésus-Christ, afin qu'il puisse le bénir, ce qui a toujours été et reste son objectif ultime.